BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h30, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse sur les sujets d'actualité du jour avec une thématique globale. Ce matin, une question globale, l'État est-il devenu complètement impuissant face à la canicule? Les ministres se réunissent aujourd'hui, les syndicats sont convoqués au ministère du Travail, les cellules de crise s'activent et pourtant la France dispose déjà de lois, de stratégies, de plans, de trajectoires et même d'un haut conseil pour suivre le climat. Nous avons les acronymes, mais toujours pas les écoles climatisées, des transports ou des entreprises adaptées à la chaleur. Même déni sur les retraites, l'Allemagne prépare une réforme globale, travailler plus longtemps, épargner davantage, introduire une capitalisation obligatoire. Et pendant ce temps-là, la France, elle, suspend ses réformes et regarde le mur démographique se rapprocher. Sur l'énergie, tous les candidats promettent des prix plus bas. C'était un colloque hier à l'UFE avec 9 candidats ou représentants de candidats. Sortie du marché européen, baisse des taxes, fin des subventions, très bien. Mais qui financera tout ça? Qui financera le nucléaire, les réseaux et la transition? Pour l'instant, personne n'a la réponse. Et puis enfin, le logement. Le gouvernement présente aujourd'hui un projet de loi en Conseil des ministres qui promet 4 chocs pour relancer un secteur en panne. Oui, un nouvel projet de loi présenté ce matin, mais après des années de normes et de changements de règles, est-ce qu'on va véritablement avoir un électrochoc ou finalement un plan de plus? Ce sera le dernier débat aujourd'hui des experts. Voilà pour un programme chargé, il est 9h passé de 32 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business et vous y êtes bien. Allez, c'est parti. Et pour parler de cet état empêché, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Clémentine Gallès. Bonjour Clémentine.
Bonjour Raphaël.
Chef économiste et stratégiste chez Société Générale Private Banking. À vos côtés, Mathieu Plane. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Gilles Raveau. Bonjour Gilles.
Bonjour Raphaël.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis et auteur d'un ouvrage qui est sorti ou qui vient de paraître.
Exactement.
Rappelez-nous son titre.
Petit traité d'économie impertinente aux éditions First.
Et de quoi vous allez nous parler dans ce livre?
En fait, c'est un manuel d'économie citoyenne. Et je reviens aux deux fondamentaux, le commerce et les gains de productivité. C'est ça qui explique la croissance depuis la révolution industrielle. Et donc, je raconte comment le monde s'est enrichi. Et avec, j'ai toute une partie sur l'Union européenne, et je montre comment l'Union européenne a fait des gagnants et a fait des perdants, et j'explique notamment que, à mon sens, le grand perdant de la construction européenne, c'est la France.
Ah.
Pour des raisons assez simples, puisqu'on est en concurrence avec des gens qui sont moins chers que nous, et qui maintenant sont aussi productifs, voire qui innovent plus, et donc en fait... moi, je suis une partie d'une famille, tous les sens du terme, socialiste. On sait que la construction européenne est un projet du Parti Socialiste Français, François Mitterrand, Jacques Delors. Et on nous a vendu, on se rappelle, quand on était jeunes, l'Europe sociale, l'Europe politique. Et en fait, je me dis...
Avec Helmut Kohl qui n'était pas tout à fait socialiste, en face de François Mitterrand.
Tout à fait. Et non, mais je parle vraiment de notre pays.
Oui.
Et je me dis, comment, en fait, et c'est un des problèmes, la prétention française, comment on a fait pour ne pas voir qu'on allait se faire défoncer par nos concurrents successifs. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'exemple typique, c'est l'Irlande. L'Irlande, qui, lorsqu'elle rentre dans la communauté économique européenne, a un PIB par habitant très inférieur au nôtre, et qui aujourd'hui, alors on sait, on a du mal à connaître exactement le vrai PIB par habitant irlandais du fait de la très légère optimisation fiscale de ce pays, mais en tout cas, toujours est-il que le PIB par habitant de l'Irlande aujourd'hui est très supérieur au nôtre. Autre exemple que je donne, la Pologne, 5% de croissance par an. La Pologne, moins chère que nous, plus productive, qui reçoit... qui est bénéficiaire net
des aides
du budget européen, alors que nous, on est contributeurs nets. Et clairement, l'Union européenne aide, en fait, la Pologne à créer des emplois qui, pour certains d'entre eux, pourraient être en France s'il n'y avait pas ces aides et s'il n'y avait pas cette concurrence.
C'est pas ce qui s'appelle un projet de prospérité commun, tous ensemble? Est-ce que c'est la faute de l'Europe ou est-ce que c'est la faute de la France? Ça va nous amener au premier débat, parce que l'Allemagne, première puissance économique européenne, n'a pas vraiment été affaiblie du fait de l'UE, bien au contraire.
Alors, c'est un autre...
On a plutôt tiré profit, donc est-ce que c'est la faute de l'Europe ou est-ce que c'est la France qui a été nulle?
Alors justement, je fais un petit chapitre pour expliquer, ça c'est un mécanisme un petit peu subtil et après j'arrête, c'est que avant, il y avait des monnaies nationales qu'on a détruites pour créer une monnaie unique.
Oui.
Avant,
et
quand
qui nous protège de toute dévaluation, ce qui fait qu'on peut dépenser et avoir des déficits et des dettes qui montent jusqu'au ciel.
Ah, j'explique
merci
ça.
L'Europe.
J'ai un sous-titre, un intertitre qui s'appelle « La France bien au chaud dans l'euro ».
Ah.
Donc tout à fait. Mais pour revenir au point précédent, avant l'euro, quand l'Allemagne avait des excédents commerciaux, le Deutsche Mark s'appréciait et le franc français se dépréciait, ce qui améliorait la compétitivité des produits français en Allemagne et ce qui dégradait la compétitivité des produits allemands en France. Or, avec la monnaie unique, ce mécanisme a été supprimé. Donc en fait, la monnaie unique structurellement, en fait, bénéficie aux pays exportateurs nets. Il y a une forme de dumping monétaire. Ben si. Et donc c'est des raisons du succès allemand.
Bon, on en bénéficie pour nos importations et pour le pétrole, l'énergie peut-être.
Non mais là je parle au sein du dumping monétaire entre pays européens.
Une réaction ?
Membre de la zone euro.
J'ai pas lu, pardon.
Vas-y.
Clémentine Gallès.
Oui, juste une réaction de dire que pour ramener le sujet peut-être sur aujourd'hui spécifiquement, par contre, l'Europe est le bon, la bonne dimension pour faire face à des concurrents qui sont plutôt hors Europe aujourd'hui, notamment la Chine et qui déstabilise y compris le modèle chinois en ce moment.
Non, okay. J'ai pas lu le livre, hein, mais.
Il est sorti ou pas le livre ? Est-ce qu'on peut
l'acheter ? Oui, il est sorti.
Bon, on pourrait l'acheter en librairie.
Je trouve que c'est une question intéressante. C'est vrai que la position de la France au sein de l'Europe, elle est assez singulière, en fait. Elle est ni le Nord ni le Sud, dans sa réalité.
Un trait d'union.
Un espèce de trait d'union. Elle est quand même extrêmement bien placée au sein de l'Europe, hein, on le voit notamment dans les relations commerciales. Mais c'est vrai qu'il y a eu cet effet de concurrence plutôt des pays d'Europe du Sud. Alors l'Italie a quand même aussi eu des difficultés hein, sur les questions européennes. Enfin, c'est quand même le déclassement italien, il est quand même très très marqué à partir du moment où il y a la création de l'Union monétaire. Mais l'Allemagne en a tiré quand même largement profit pendant des années, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant, en réalité, parce qu'il y a quand même une revalorisation salariale.
Et oui.
On voit que l'Allemagne aujourd'hui est aussi à la peine parce qu'elle a des stratégies économiques qui ont été assez profitables à un moment donné, mais qui ne le sont plus.
On va
y
venir sur les retraites.
Donc, et puis après, la question de la transformation de l'Europe dans un monde qui change. C'est toujours la difficulté de sa réactivité. C'est une puissance, à la fois, hein, qui nous protège, mais en même temps une faiblesse, c'est-à-dire qu'elle a du mal à bouger. Quoi.
Bon, ma question c'était, est-ce que c'est l'Europe qui nous a fait du mal ou est-ce que c'est la France qui est nulle pour gérer ses propres affaires ? Ça va être un peu le thème aujourd'hui de toute l'émission, on va y aller franco, parce que franchement, entre les canicules, entre les retraites, quand on voit le déni français, c'était le sujet de mon édito ce matin, moi ça me chauffe un tout petit peu et ce n'est pas dû qu'à la température extérieure. On va commencer Gilles Raveau par ces réunions à Matignon, Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail aujourd'hui, qui va convoquer les syndicats pour dire, ah mon Dieu, il fait chaud, qu'est-ce qu'on peut faire dans les entreprises ? On n'a pas manqué de texte, hein, je veux dire, sur le changement climatique, on n'a pas manqué de vision. Jacques Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était en 2002 au sommet de la Terre de Rio, il y a près d'un quart de siècle. Depuis, on a eu plusieurs lois de transition énergétique, on a une stratégie nationale bas carbone, on a un plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, qui vous délivre une trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, avec de beaux tableurs Excel. On a rempli tant d'objectifs, on est content. On a un haut conseil pour le climat, bien sûr. On a même un site internet, réchauffementclimatique.gouv.fr. On a tout l'attirail d'une réponse technocratique à une crise climatique. Et le résultat, c'est que 2000 écoles sont fermées aujourd'hui parce que nos gamins n'ont pas de climatisation. Quelle conclusion on peut tirer de tout ça, Gilles Raveau ?
On a un pays qui a du mal avec les êtres humains. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, je suis venu notamment parce qu'il fait frais ici. Il fait presque un peu trop frais, d'ailleurs, à mon goût. Et alors qu'on a vu, on a tous vu les reportages sur ces chambres d'hôpital à 32 degrés.
Ce qui est vrai pour nos jeunes est également vrai pour nos seniors, pour nos malades.
Bref, avec des soignants.
Les populations les plus fragiles ne sont pas protégées dans ce pays.
Mais on ne l'a jamais fait. Regardez les transports en commun. Vous allez dans les pays du nord de l'Europe. Les bus à plancher bas, ça a juste toujours existé. Nous, quand on crée un bus à plancher bas, on a une campagne de communication. C'est dingue ! Tout le monde va pouvoir monter dans le bus. La France, c'est toujours construit sur la norme, sur la personne qui va bien. C'est pareil, je suis prof. Hein, le mépris, on a vu les étudiants qui faisaient la queue pour se nourrir.
Et qui passent des examens en ce moment dans des amphithéâtres surchauffés, eux aussi.
Moi, mon université, une passoire thermique. Je vais vous dire juste cet exemple qui est totalement anecdotique, mais quand même, on a des radiateurs dans les couloirs. N'importe qui pour les tourner à fond. L'hiver, il suffit que n'importe qui passe dans le couloir, le radiateur va être à fond tout le week-end. C'est de l'argent public, c'est de la pollution. Voilà. Ça n'intéresse personne. Ça fait 20 ans que je suis dans mon université, pendant 20 ans, ça sera toujours pareil. Autre chose qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'Europe, en tant que continent, est la partie du globe qui se réchauffe le plus vite.
Oui.
Juste un chiffre, une ville comme Montpellier, entre 1980 et aujourd'hui, en 45 ans, la température moyenne relevée au cours de l'année, c'est plus 3 degrés. Paris, sur la même période, c'est plus 2,5 degrés. Et là aussi, je pense que, bon, c'est facile de critiquer les autres, mais dans la communication, je pense qu'on parle beaucoup trop du réchauffement mondial, le 1,5, etc.
Oui.
Il faut qu'on sache que la France, en moyenne, s'est déjà réchauffée de plus de 2 degrés. Et donc, évidemment, que les conséquences sont déjà là, et on a tous les instruments de mesure, effectivement, et on ne fait rien.
On a beaucoup fait pour lutter contre le réchauffement climatique, très peu pour s'adapter. Qu'est-ce qui explique, Clémence Gallès, ce déficit d'action?
Alors, ce qui explique cet excès peut-être de la norme, comme vous dites, par rapport à vraiment un plan d'action efficace, c'est que ça a un coût et qu'il y a toujours un arbitrage entre le coût. Et donc, c'est plutôt le reflet de la difficulté de l'action publique face à ces chocs qui peuvent être...
Pays le plus dépensier au monde, je le rappelle.
Voilà, mais dans une contrainte financière effective quand même depuis quelques années et qui du coup limite la capacité d'action. Après, une façon d'agir, et puis c'est un sujet globalement sur le climat, c'est de l'État devrait plutôt que de vouloir normer et cadrer, plutôt jouer sur les incitations pour que les acteurs privés, hein, on parlait des entreprises, soient moteurs eux-mêmes de leur transformation et puissent mettre en place des stratégies d'adaptation.
Ouais, Mathieu, on a les chiffres qui sortent là, hein, 7% des établissements scolaires seulement équipés de climatisation, un quart des foyers, quand c'est 50% en Italie, en Espagne, dans beaucoup de pays européens, 90% au Japon et aux États-Unis. C'était un peu le symbole du mal, la clim, d'ailleurs, pendant un temps. Alors
oui, c'était le symbole du mal. Je ne sais pas si c'est toujours je suis pas sûr que ce soit le symbole du bien non plus. Il y a quand même, ça pose un certain nombre de problèmes, à la fois sur le financement, sur le rejet d'air. Par exemple, si tout le monde est climatisé à Paris, où vous avez 3 degrés de plus dans la rue, quoi. Bon, enfin, tout ça, il y a quand même des problèmes techniques aussi à résoudre, hein. Au-delà de ça, il y a des problèmes budgétaires, hein, qui sont évidents. C'est-à-dire que c'est des énormes infrastructures. Voilà, c'est à des grandes échelles. Je pense que.
C'est donc plus géré.
C'est plus géré. Et après, est-ce qu'on centralise, on décentralise? Est-ce que c'est de l'argent public? Est-ce que c'est de l'argent privé? Est-ce que, comment on organise les financements? Donc, il y a tout ça. Je crois qu'on était aussi sur un débat qui a été beaucoup et qui doit l'être sur l'atténuation.
Oui.
Pour rappeler, hein, quand même, il y a atténuation, adaptation.
Oui.
Atténuation, c'est réduire les émissions de CO2 avec nos objectifs zéro net carbone pour 2050, sur lequel il y a quand même un certain nombre d'investissements qui sont réalisés. Peut-être pas assez, mais il y en a quand même beaucoup. L'adaptation, on voit que c'est un sujet qui monte, mais qui reste quand même encore assez secondaire, je trouve, dans le débat public. Et on en parle le jour où il y a des canicules.
Ben voilà.
Et peut-être que dans un mois, on aura tous oublié, on sera à la plage, on n'en parlera plus. Voilà. Sauf qu'entre-temps, il y aura des morts. Il y aura des morts, et on le voit, vous parliez de Chirac au sommet de la Terre, hein, mais en 2003, juste derrière, il y a quand même la plus grande canicule de l'histoire française,
oui.
Il y a 15 000 morts.
Ben oui.
Bon, on voit qu'il y a eu le discours, et après, il y a les actes. Et donc, on va... Moi, je pense que... la société se transforme, les pouvoirs publics se transforment quand ils prennent conscience que, en fait, c'est plus des épisodes isolés et que c'est des choses qui sont récurrentes et que quand chaque année, on va le vivre, on va se dire, les grandes agglomérations françaises sont plus vivables.
Bah oui.
Ils sont pas vivables.
Comment on fait pour nos, aujourd'hui,
comment on fait pour nos étudiants, comment on fait pour nos enfants, comment on fait pour nos personnes âgées, comment on fait pour les transports, comment on fait pour les métiers qui travaillent dehors, comment on fait pour l'agriculture. Enfin, vous avez énormément de sujets, mais la question, c'est que, politiquement, c'est juste porteur quand ça va mal. Et que c'est des chantiers massifs et énormes,
oui.
Qu'on doit... c'est des investissements pour le coup. Je veux dire, il faut retrouver une notion de long terme, on est en plein dedans. Et c'est-à-dire que ça se construit.
Mais pardon, est-ce que c'est pas le rôle des politiques d'avoir cette vision long terme et devoir gérer les problèmes du pays?
Mais moi, c'est là,
en dehors
c'est là,
des aléas politiques.
C'est là que j'ai pas d'explication.
L'opinion publique, Gilles Raveau.
Parce que vraiment, ça nous touche tous. Et vraiment, voilà, la question, c'est la question... On en est à se poser la question de est-ce qu'on va survivre? Moi, dans mon appartement, là, il fait 30 degrés. Bon, je me dis, jusqu'où ça va monter les années suivantes? Je ne peux pas l'isoler, je n'ai ni les moyens techniques ni financiers. Bon, il y a eu des élections municipales. Je n'ai pas eu l'impression que, justement, le fait que les écoles primaires qui sont gérées par les communes
absolument.
Soient fraîches, ça a été un sujet majeur à peu près nulle part, alors que, moi, depuis des années, je plaide, justement, puisqu'on a cet actif qui soit que les écoles soient fraîches pour les élèves et aussi que ça soit des lieux de refuge. Il y a des écoles primaires partout. Si toutes nos écoles étaient fraîches, ça veut dire que les personnes qui travaillent dur les personnes âgées, etc., pourraient s'y réfugier l'été. Et en plus, politiquement, ça montrerait aux gens où va leur impôt en disant, bah, regardez, la puissance publique vous aide, vous protège. Bon, pareil pour les départements avec les lycées. Les départements avec les collèges. J'ai pas l'impression que ça soit un sujet majeur. Comment ça se fait que nous, qui avons des enfants, pourquoi est-ce que nous, les citoyens, on ne demande pas plus lors des élections locales sur ce genre de choses? Ça, j'ai pas la réponse. C'est quand même curieux.
C'est le privé qui a pris la suite, hein. Ces îlots de, ça, c'est important, hein. Cette notion de refuge climatique qui risque de monter dans les prochaines années. Bah, aujourd'hui, c'est le centre commercial. C'est le début des soldes. Ouais, voilà. Aujourd'hui, figurez-vous, ça tombe bien. Ça va probablement, profiter, aux commerçants. Mais c'est le privé aujourd'hui, on est d'accord.
Puis c'est la voiture.
Qui permet se protéger comme ça de la canicule et de la chaleur plutôt que l'inverse.
Mais là où effectivement, mais bon, tout le monde l'a dit, mais c'est vrai que ça rend dingue parce qu'on voit que des problèmes énormes dans notre pays, c'est qu'on sait qu'effectivement le coût économique, on a déjà des études. Il y avait un extraordinaire papier dans Les Échos la semaine dernière sur le réchauffement climatique va-t-il nous rendre idiots, hein, c'est-à-dire qu'on sait que les augmentations de température, on a déjà des résultats d'études sur le développement des jeunes enfants, ça a des gros retards cognitifs. On sait que quand il fait chaud, le cerveau est en stress. On fait tous des bêtises, on devient plus violent, il y a plus de violence conjugale, il y a plus de gens qui prennent des mauvaises décisions. Enfin, les coûts de la chaleur et de la non-adaptation sont absolument énormes.
Bon, on va passer à un autre déni. Je le mets un petit peu sur le même plan. Après le déni climatique, le déni démographique. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne vient de présenter hier un groupe d'experts composé d'universitaires, d'économistes et de politiques. Déjà, il y a une méthode derrière, c'est-à-dire qu'on met ceux qui pensent avec ceux qui appliquent. On a rendu un rapport pour réformer le système allemand des retraites. Je rappelle que l'âge légal est déjà prévu à 67 ans en Allemagne. Pour révolutionner, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin quand même, le programme est assez costaud pour renforcer la pérennité du système de retraite en Allemagne. Peut-être, Mathieu Plane, d'abord, expliquer ce qu'il y a dans ce plan.
Oui, alors, merci pour la question.
C'est cadeau,
je peux vous aider. J'ai pas tous les détails, mais ce que j'ai en tête, les principaux points, c'est que il y a un lien entre le décalage de l'âge légal et l'espérance de vie pour deux tiers, un tiers.
On adosse, effectivement, aujourd'hui c'est 67 ans l'âge légal, si la durée de vie augmente, on adossera.
Si elle augmente d'un an, en gros, vous prenez 8 mois de plus.
Tous les 10 ans.
Voilà. Bon. Donc, il y a cette indexation de l'âge légal sur l'espérance de vie. Le deuxième point, c'est une retraite par capitalisation obligatoire, avec une montée progressive, je crois, d'un demi point de pourcentage sur la masse salariale chaque année.
Effectivement, alors on va augmenter les cotisations, du coup.
Mais obligatoirement,
obligatoirement.
Et qui serait géré par un fonds de capitalisation. Alors, c'est la question d'ailleurs de la gouvernance, je pense que c'est un point important, mais sur un peu à l'image du modèle suédois.
Oui.
Qui est, je crois, à près de 2,5% chaque année, en fait, de prélèvement sur cette masse salariale pour, dans un placement, en fait, financier. Alors, ce que j'ai trouvé d'ailleurs intéressant, c'est que le placement financier évolue avec l'âge de la vie. Et que, par exemple, vous êtes jusqu'à 55 ans, par exemple. En fait, donc, c'est pas mutualisé pour tout le monde. Enfin, c'est mutualisé pour tout le monde. Mais après, par contre, vous avez un placement qui va être différent si vous avez moins de 55 ans ou plus de 55 ans. Moins de 55 ans, vous êtes essentiellement action. Au-delà de 55 ans, vous sécurisez plus sur l'obligation pour être, on va dire, plus sécurisé par rapport à la volatilité et le risque. Donc, bon, voilà. Dernier point, et ça, je crois qu'il y a quand même cette question du prélèvement supérieur, hein, parce que je crois que les entreprises sont quand même pas très contentes non plus, parce que ça veut dire que vous avez un prélèvement de 2% de plus.
Encore, ça passe au Parlement, ce qui n'est pas gagné, effectivement.
Qui s'ajoute au prélèvement public pour la répartition. C'est pas une substitution, ça c'est quand même important de le dire. Et il y a un autre point, c'est que, il y a un coup de frein sur les retraites anticipées, et ça qui va, à mon avis, très très mal placer, parce que ça veut dire que, j'ai vu ça, c'est qu'en Allemagne, on peut prendre sa retraite à 63 ans si on a plus de 45 ans de cotisation.
Oui.
Ils vont le supprimer. C'est vrai qu'on se dit 45 ans de cotisation, c'est beaucoup.
Que c'est 42 en...
Voilà, 45 ans, et donc supprimer, et ça fait beaucoup d'économies. Bon, on voit qu'il y a sur le papier beaucoup de mesures, pour le moment, c'est pas voté.
Oui, ça pourrait être encore
amendé. Question du financement des systèmes de retraite reste important, mais il y a ce volet capitalisation obligatoire qui rentre dans les bains.
Voilà, on voit un triptyque, travailler plus longtemps, épargner davantage et puis compléter progressivement la répartition par un petit bout de capitalisation. Et puis, encore une fois, tout ça avec une méthode. Moi, je suis frappé de voir les Allemands avancer sur ce terrain-là, quand nous, en dépit de l'allongement de la durée de vie, on a fait exactement l'inverse au moment où on a eu la grande bascule démographique en 2025, plus de décès que de naissances. Est-ce qu'il faut s'inspirer du modèle allemand, Clémentine Gallès ?
Alors déjà, une remarque sur les propositions de cette commission. Pour l'instant, elles ne sont pas encore effectives.
Non, c'était une commission qui a été demandée par le gouvernement, il faut le dire. Le rapport a été remis hier. Maintenant, il faut que ça passe encore au Parlement.
Il faut encore que ça passe. Donc, on n'est pas encore...
Et ça s'annonce un peu compliqué.
Le système n'est pas encore complètement résolu. Et on retrouve bien la difficulté politique qu'on a en France et la difficulté même qu'on rencontre sur le sujet d'adaptation aux crises climatiques, c'est qu'on a cette confrontation entre un coût politique à court terme qui peut être très élevé, mais un coût d'inaction si on n'agit pas en amont. Et l'Allemagne est à peu près dans la même situation que nous. Et là où c'est intéressant, c'est de rappeler la réforme systémique qu'ont mis en place les Suédois dans les années 90 et qui se sont attaqués à l'ensemble du système plutôt que de poursuivre ce qu'on fait en France et en Allemagne, de jouer sur des paramètres une année après l'autre ou tous les trois ans, etc. C'est de modifier complètement le système pour qu'il s'ajuste automatiquement à des chocs soit démographiques, soit économiques. Alors, par contre, l'appliquer à la France, c'est que, un, ça a été fait dans les années 90, donc en large anticipation par rapport aux chocs démographiques, et de deux, ça a été fait, donc, comme j'ai dit, pendant et ça a eu un coût. C'est-à-dire que par exemple, le financement des retraites par capitalisation a impliqué une réduction du financement par répartition. Et je suis pas sûr.
Ça a été en substitution plutôt qu'en ajout,
ça a eu un coût massif
l'Allemagne.
Sur mais les retraites des
on
passagers.
A anticipé, on a prévu, tout comme Lionel Jospin, il y a plus de 20 ans, avait mis en place le fonds de réserve des retraites en anticipation de ce retournement démographique. On le savait déjà, encore une fois, comme le réchauffement climatique. Gilles Raveau, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme allemande ? Quelles leçons vous en tirez ? A-t-on des leçons à en tirer ?
Déjà, je rappelle juste les deux chiffres du système français. Le déficit des retraites, dont le chiffre n'apparaît toujours clairement dans aucun rapport officiel, on le doit à un seul homme qui est Jean-Pascal Beaufray. Le déficit, c'est 80 milliards.
Oui.
Non, mais là, on a un problème quand même démocratique complètement dingue.
Alors, il y a un débat autour comment comptabiliser les retraites des fonctionnaires.
Oui, mais
effectivement, Jean-Pascal Beaufray a éclairé le débat d'une lumière qu'on n'entendait pas avant et qui serait peut-être bien plus grave que les 6 milliards qu'on anticipe d'ici.
Quand on regarde ses travaux, moi, quand je l'ai rencontré, etc., il n'y a pas tellement de ce qu'il explique. C'est quand même très, très clair et il n'y a pas tellement matière à controverse, pour le coup. C'est plutôt un refus. Non, mais là, très clairement, la controverse qu'il a vue avec Pierre Moscovici, quand Pierre Moscovici était premier président de la Cour des comptes, on voyait très, très bien une institution publique avec des gens très bien payés avec nos impôts qui refusaient de dire la vérité. Et il se moquait de Beaufray. Donc, je veux dire, là, c'est exactement le mépris des élites. Je suis désolé, c'est très clair. La deuxième chose, comme l'explique très bien Sylvain Catherine, économiste libertarien, bon, je suis quand même assez éloigné, c'est que le premier problème...
Libertarien.
Non, il se définit comme libertarien.
Ah oui ?
Ah oui, je peux vous dire. Oui. C'est l'ampleur du prélèvement. C'est-à-dire que notre problème des retraites, c'est pas le déficit qui est complètement dingue, c'est qu'un tiers, en gros... de la richesse produite par les gens qui travaillent va aux personnes qui sont retraitées et les gens qui travaillent aujourd'hui...
Avec les dépenses de santé, oui. C'est 28%, c'est 28% pour les retraites. Oui, et si vous ajoutez les dépenses de santé, on arrive à 33%.
Oui, mais comme le déficit est caché justement quand on l'intègre, etc. C'est ça. On arrive.
Après, le Conseil pour le financement de la protection sociale vient de dire que les cotisations n'avaient pas bougé depuis 95.
Ouais, mais là, je vais faire mon libertarien de gauche. Là, ce truc du Conseil, c'est quasiment de la fake news parce que effectivement, comment est-ce qu'on a stabilisé la part des cotisations sociales ? C'est par le déficit. Donc on arrête de prendre les gens pour les imbéciles. Vous avez dit tout à l'heure, l'État est impuissant. Pourquoi est-ce que l'État est impuissant en France ? Parce que c'est pas l'État. C'est qu'en fait, nous sommes prisonniers d'un truc et c'est la faute de personne dans les gens ordinaires, c'est le système de protection sociale. Et le système de protection sociale, en fait, n'est pas décisionnaire. C'est-à-dire que nous avons effectivement des dépenses publiques très élevées parce que c'est les retraites et c'est la santé.
Oui.
C'est les trucs les plus importants dans la vie des gens. Et le gouvernement, en fait, ne maîtrise pas ni la santé, ni la retraite, parce que ça dépend de plein de facteurs, et il n'en maîtrise à peu près aucun. Et donc là, on est pris dans un train fou, qui en plus, on sait très bien, c'est pour ça que j'en ai marre qu'on parle des retraites pour vous dire la vérité, il y a un adulte sur trois en France qui est retraité. Ces gens-là n'accepteront jamais qu'on baisse leur retraite, et je les comprends. On leur a dit toute leur vie, vous cotisez, ils bossent dur, ils respectent les règles, et maintenant, des personnes qui ont 65, 70, 80 ans, on leur tombe dessus en disant « vous coûtez trop cher ». à la fin de votre vie, vous vous rendez compte, la violence du truc. En plus, ils se prennent la canicule, leurs gamins n'ont pas d'emploi, etc. Enfin, je veux dire, la souffrance mentale des classes moyennes, dont on voit les résultats politiques partout dans les pays riches, elle est dingue, elle est dingue. Et donc, il n'y a pas de solution réaliste au problème des retraites, moi, je pense.
Mathieu Plane, un système hors de contrôle, le système social
alors,
français.
Alors, hors de contrôle, moi, je serais peut-être moins dur, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est massif, enfin, je veux dire, la première dépense publique, c'est clairement la dépense des retraites, très loin devant toute la masse salariale des fonctionnaires. Hein.
Un quart de la dépense publique, plus
un quart de la dépense publique, si vous rajoutez effectivement la santé, on est à 45%. Voilà. Donc voilà, quand on dit la France dépense trop, en fait, quand vous prenez poste par poste, qui vraiment différencie la France du reste des pays, c'est oui. Son système de retraite qui est, j'allais dire, à 98% mutualisé. Effectivement, on n'a pas de...
Et qui reste quand même l'un des plus généreux. Hein.
Et là, alors,
un des plus... Qui part le plus tôt avec un taux de remplacement
plus élevé. Hein. Effectivement, il y a ça. Donc, c'est un sujet qui va être récurrent. On a un double effet, hein, parce qu'on dit il y a l'espérance de vie, mais il y a un effet générationnel surtout. Il y a un effet générationnel qui est massif. Et donc cette transition, on a du mal à gérer. Alors, il y a quand même le Conseil d'orientation des retraites hein, qui fait son boulot hein, de projection. Chaque année, on a quand même
un
rapport. D'ailleurs, les retraites, moi, je trouve, prennent une place dans le débat public qui est immense, quoi. Immense, presque par rapport à d'autres sujets. C'est un point important. Mais par exemple, on parle assez peu des questions de financement de la santé, qui sont au moins tout aussi importants, et dont on a des besoins d'investissement massifs. On sait qu'une personne de 80 ans et plus consomme en général 10 fois plus de santé qu'une personne de 20 ans. Je veux dire, la structure démographique fait qu'on le sait. Les gains de productivité nous coûtent cher parce que mieux soigner, ça coûte plus cher. Il y a des besoins de protection nouveaux avec les épidémies, etc. Donc, en fait, c'est un sujet énorme. Bon. Tout ça pour dire, c'est qu'on n'en est pas sorti, l'auberge et retraite, et la grande question, c'est ça, comment...
On fait même qu'il y a rentré, hein, probablement, non, alors, mais donc la question, c'est pourquoi on ne sort pas du déni.
On sort, alors,
on a suspendu cette réforme pas... des retraites, ce qui est
dingue. Oui. Non, mais il y a réforme et réforme. Je crois que c'est ça le problème, c'est que je ne suis pas sûr que les gens soient totalement dans le déni. C'est que, en fait, quelle réforme on veut ? C'est-à-dire, comment on partage, j'allais dire le gâteau, c'est pas le gâteau, mais plutôt le fardeau, entre... les entreprises, entre les actifs et les retraités. Et est-ce qu'on introduit des capitalisations ? Mais la capitalisation, elle ne résout pas le problème du financement des 10 prochaines années. C'est un truc générationnel, dire le rendement du capital est supérieur à celui du travail, donc on va en profiter.
Bah oui.
Mais à 10 ans, ça... Donc, il faut se mettre autour de la table et faire une conférence de consensus. Et puis moi, je suis assez d'accord, c'est qu'en fait, derrière, c'est qu'on n'a pas de vraie réforme structurelle. C'est-à-dire que les dire, il faudrait plutôt passer sur des régimes peut-être plus universels, des choses comme ça qui étaient, à mon avis... quelque chose qui était assez entendable, en fait, a été dégommé par des questions financières. Mais voilà, bon, le sujet sera bien sûr
d'actualité. Arrêter le paramétrique pour faire du systémique. Et puis
mais le problème, c'est qu'on a... et c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'on a besoin de trouver des nouveaux financements. Mais quand vous ajoutez ça à une réforme systémique, plus personne n'y comprend rien et plus personne n'en veut. Voilà, et c'est ça le problème.
On n'est pas sorti de l'auberge, comme vous dites. Bon, allez, on se retrouve après une très courte pause publicitaire. On va parler, après avoir parlé climat, canicule et retraite, on va parler énergie et logement, des sujets qui vous concernent, évidemment. Ne quittez pas, à tout de suite.
BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h pile, vous êtes sur BFM Business, c'est les experts, on est encore ensemble pour une demi-heure de débat et de controverse sur les sujets d'actualité économique du jour, des sujets légers, me disait Mathieu Plane, effectivement. Bon, on a eu la canicule, on a eu les retraites, on va parler énergie et on va parler logement dorénavant. C'est les sujets de la présidentielle et justement, hier, 9 candidats ou représentants des candidats à la présidentielle étaient réunis à l'UFE, qui est un peu le lobby des énergéticiens, électriciens, l'Union française des énergéticiens, pour parler prix de l'énergie, évidemment, des candidats qui promettent tous, des baisses d'énergie, promis, chacun sa baisse de taxes, chacun j'arrête ci, j'arrête ça, je sors du circuit européen. Bref, ils ont présenté leur politique énergétique à ce colloque. Alors, vous n'avez peut-être pas passé votre soirée devant le site de l'UFE les uns et les autres, mais vous avez dû voir les comptes rendus qui ont pu être faits aujourd'hui dans la presse. D'abord, cette idée quand même importante de la sortie du marché européen, et je commence avec vous, Gilles Raveau. C'est notamment le Rassemblement National qui propose cette sortie du marché européen. Alors Jean-Philippe Tanguy, qui porte ce sujet au sein du RN, dit « Non, mais il n'est pas question de couper les câbles, c'est juste qu'on veut redéfinir le design du marché européen. » Bon, Marine Le Pen, elle dit « On sort hein. ». Quand même très clair et net. Avec des baisses de taxes et en même temps, on coupe les subventions. C'est une bonne idée, ça, ou pas ?
Moi, je suis pour la sortie du marché européen d'électricité.
Ah.
Parce qu'effectivement, il y avait des échanges internationaux avant ce marché qui, en gros, date de 2009.
Oui.
Il y a toujours eu des interconnexions. Et un des trucs qu'on a le plus raté, mais encore une fois, c'est tellement facile d'arriver une fois que l'accident a eu lieu, c'est que nous, on a un avantage comparatif, qui est même un avantage absolu au sens d'Adam Smith, qui est le faible coût de production de l'électricité grâce au nucléaire. Et ce que je
pense... l'instant.
Oui,
parce qu'on a amorti nos centrales, mais on doit en construire des nouvelles, Gilles Imbeau.
Oui, tout à fait. Mais
100 là, milliards d'investissements.
Tout à fait. Mais là aussi, je rappelle d'ailleurs, j'avais un peu bossé le sujet, que contrairement à ce qui est souvent cru, les centrales ont été entièrement financées par nos abonnements à EDF. Hein. Il n'y a pas eu un euro ou un franc à l'époque de financement public. Ça n'est pas vrai. Les centrales ont été financées par les clients d'EDF. Et oui, c'est EDF qui a tout financé. Donc, c'est quand même une réussite extraordinaire. Et quand vous réfléchissez bien, c'est un avantage macroéconomique. C'est-à-dire qu'un faible coût de l'énergie, c'est un avantage compétitif pour les entreprises. Ça soutient le niveau de vie des ménages. Et ce qu'on aurait dû faire, et donc je pense qu'on n'aurait jamais dû rentrer dans ce marché européen d'électricité, c'est vous la vendez plus cher à l'étranger. C'est-à-dire que, de même que, par exemple, pour prendre mon cher exemple, les Polonais, ils ont un coût du travail plus faible que nous. Et donc, ils vendent leurs produits, leurs machines à laver, voilà, au prix qu'ils veulent, parce qu'ils sont moins chers. Et donc, je pense qu'effectivement, on devrait retrouver cette souveraineté électrique et refaire de l'électricité quelque chose qui rapporte de l'argent aux entreprises, aux ménages et à l'État français.
Alors, ce que certains vous répondront, Gilles Raveau, c'est que, un, on paye l'électricité moins cher en France qu'ailleurs en Europe. Deux, qu'on a fait 5 milliards d'excédents l'année dernière parce qu'on a exporté beaucoup d'énergie électrique. Et que trois, quand nos centrales étaient toutes en révision en 2023-2024, ouais, on aurait eu 3 semaines de blackout si on était uniquement sur notre marché national. Mais le débat est intéressant. Mathieu Plane, quelle est votre position?
Moi, je suis plus modéré là-dessus. D'abord, c'est un sujet très technique.
Oui.
En réalité, ouais. Voilà. Donc, on passe des retraites à l'énergie. on va parler logement. Voilà, il y a des gens qui sont très experts là-dessus. Oui. C'est vrai que cette interconnexion européenne a des faiblesses que Gilles a souligné. Elle a aussi des atouts. C'est qu'effectivement, elle permet de redistribuer les excédents d'électricité quand il y a des déficits, ce qui est quand même un point important. Qui pose des problèmes, c'est que quand vous avez un choc très négatif, comme on a eu en 2022-23, effectivement, on payait au coût marginal le prix d'électricité, et que quand le prix du gaz est à 340 euros le mégawattheure, et que c'est le prix marginal qui fait le prix de l'électricité, on a explosé la facture. Et personne n'a rien compris à ça, en se disant comment ça se fait. Alors, on était sur un déficit, on avait, ce qui est assez rare, c'est que, pas de chance.
On avait plus de la moitié des réacteurs qui étaient sous révision.
Il y a effectivement des corrosions sur les nucléaires. Donc, notre parc était vraiment extrêmement réduit. Donc, on a dû importer l'électricité à des coûts pharaoniques. Bon, là, aujourd'hui,
c'est une conséquence indirecte du Covid, parce que les maintenances ont pris du retard à cause du Covid.
Oui, c'est ça.
C'est ça, en fait.
Ah, oui. Et puis, ils ont trouvé des corrosions aussi qui n'étaient pas prévues. Enfin, bon, il y a eu pas mal d'éléments. Là, on a retrouvé des capacités nucléaires.
Et donc là, le marché européen est quand même un peu sain de sécurité, même si le Covid n'arrive pas.
On exporte, c'était 5 milliards. Je crois que c'est l'équivalent. On a exporté l'équivalent de la consommation d'électricité de la Belgique. Ce qui est pas mal. Bon, ça, c'est vrai qu'on est plutôt content qu'on a une balance commerciale excédentaire, mais quand on regarde par rapport aux US, par exemple, on reste quand même avec des prix qui sont bien supérieurs.
Deux fois supérieurs.
Que c'est un enjeu majeur pour plusieurs raisons. C'est qu'on a besoin, on va vers une société d'électrification. Quand on regarde, par exemple, le plan pour 2035, aujourd'hui, dans le mix énergétique, la consommation finale, c'est 60% du fossile encore. On doit passer à 30%.
On divise par deux.
Absolument. Et donc, ça veut dire que c'est une montée très rapide de la question électrique. Et donc, c'est est-ce qu'on le fait seul?
On n'a pas fini d'en parler.
Ou est-ce qu'on le fait avec nos partenaires européens, sachant qu'on a à peu près des engagements similaires? Donc, il faut développer ses capacités. Et c'est vrai que d'avoir des grands réseaux, alors sauf s'il y a des gros problèmes, ça permet effectivement de rebasculer les excédents quand d'autres sont déficitaires à des moments un peu difficiles. Après, il y a aussi cette question des investissements. Mais j'allais dire, aujourd'hui, les choses vraiment qui vont structurer la société, c'est ces questions de transition, c'est ces questions d'énergie. On voit que quand Choose France SoftBank décide de mettre 50 milliards, ils disent pourquoi ils vont faire des data centers en France, parce que on a beaucoup d'énergie, d'énergie décarbonée.
Et d'énergie verte.
Donc ça va devenir notre principal avantage compétitif, j'allais dire presque.
En tout cas, on devient la pompe à essence, quoi, du.
Oui, mais sauf qu'on n'a pas de pétrole, donc c'est le moment d'aller pleine balle là-dessus.
Mais c'est aussi notre situation géographique. Par contre, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, il faut être très clair, il n'y a aucun débat non plus là-dessus. Le coût de l'énergie, au moins dans un premier temps, mais qui va durer quelques décennies, va augmenter.
Oui. Donc pour revenir, je pense qu'il faut prévenir tous ceux qui nous écoutent, effectivement, qu'on a bénéficié d'un prix extrêmement bas. Il faut se rappeler, on a bénéficié d'un bouclier énergétique. On a dépensé par dizaines de milliards d'euros 70. En 2022-2023 pour protéger les Français. En Angleterre, c'était le choix entre to heat, se chauffer, et to eat, manger. On n'a pas connu ça en France, mais on l'oublie aussi très très rapidement, mais il faut le dire, qu'effectivement, beaucoup d'investissements vont être nécessaires, et du coup l'électricité va augmenter, on est d'accord.
Exactement, alors, il n'y a aucun doute là-dessus.
Bon. Après, pour ramener plus à l'actualité chaude, ce qu'on peut quand même se partager, c'est qu'avec la réouverture passagère, en tout cas du détroit d'Hormuz, on a une vraie détente sur les prix du pétrole.
Oui.
On ne revient pas complètement au niveau de ce qu'on était en fin d'année
dernière. On est à quoi, 76 là ce matin, aux alentours de 76 dollars le baril de Brent.
Donc du coup, ça pourrait détendre la pression, au moins à court terme, par rapport à ce dernier choc de prix de l'énergie. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai besoin d'investissement à long terme sur l'électricité. Et je pense que le marché européen reste quand même le bon marché pour adresser ces sujets d'électricité, même si on a un avantage compétitif au sein de l'Europe sur lequel il y a un vrai atout pour rejoindre le premier sujet de la France en Europe. Il faut quand même continuer là-dedans au niveau européen, et ça nous permettra à la fois de nous démarquer en Europe et de nous démarquer sur le plan international.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui voient le prix du baril s'effondrer avec la réouverture du détroit d'Hormuz, Clémentine Gallès?
S'effondrer, je n'irai pas me prononcer jusque-là. Mais c'est
non, mais on parle parfois de 50-40 dollars le baril.
On était dans un marché très détendu quand même. En fin d'année dernière, on était autour de 60 dollars.
En janvier, on était à 60 dollars, effectivement.
Si on le ramène, avec qu'on corrigeait des effets d'inflation cumulés de ces dernières années et de l'efficacité énergétique de la consommation de pétrole, ça voudrait dire qu'on a un prix qui est nettement plus bas que ce qu'on a connu sur l'histoire récente. Parce que l'offre est abondante. Hormis le choc du blocage du détroit d'Hormuz, l'offre est abondante, notamment aux États-Unis.
La demande baisse du fait aussi de l'électrification.
Exactement.
Et des Chinois aussi.
Effectivement.
Ils peuvent substituer avec le charbon notamment.
Ils ont eu la capacité d'amortir le choc de blocage du détroit d'Hormuz en mobilité.
Il va falloir reconstituer les stocks aussi à un moment, parce qu'on a beaucoup consommé.
300 millions de barils, je crois, constitués. Ouais. Il y a quand même le fait que l'accord doit être signé en 60 jours.
Oui,
ça avait pris juste 13 ans de le négocier sur le nucléaire iranien. Donc, est-ce qu'il y a un péage ou pas un péage? Il y a quand même un certain nombre, il y a le déminage.
Quelques interrogations qui
demeurent. Oui, donc moi, reste quand même pas mal d'incertitudes. Juste peut-être pour revenir sur l'histoire du nucléaire, il y a quand même, et Gilles en parlait au début là, sur la question européenne, c'est que l'Allemagne n'a pas supporté qu'on soit une puissance nucléaire en termes énergétiques, pas en termes militaires.
Nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, effectivement,
surtout quand ils ont fait le choix, eux, d'en sortir.
Oui.
Et donc, nous, on s'est adapté parce qu'on avait un gain de compétitivité qui est tel qu'on a dû négocier, justement, un accord assez particulier pour vendre notre électricité à un coût, prix, effectivement, sur lequel on ne faisait pas de marge, voire extrêmement favorable pour
l'Allemagne. Et donc, qui reconnaît qu'elle a fait l'erreur de sortir du nucléaire.
C'est là où on n'a pas su défendre nos intérêts. On n'a pas su défendre nos intérêts.
Un peu comme toujours.
Donc je crois que c'est... Voilà. Ça a été une erreur, à mon avis, assez importante.
La photo, quand même, d'Angela Merkel avec la fausse valve, avec, je crois, c'est François Fillon à l'époque, et quand elle célèbre... C'est une photo incroyable, quand ils ont ouvert le nouveau gazoduc, et vous avez... Angela Merkel, je crois qu'il y a Poutine... Et je crois que le premier ministre français de l'époque, et tout le monde est hilar, ils ont de grosses valves et tout ça, et c'était génial.
Ah oui. Pour l'inauguration du gazoduc.
Bien, bien planté, les amis allemands, ils nous ont amenés avec eux dans leur chute. Ouais. Juste pour revenir sur le pétrole,
plus tard,
là aussi pour rappeler quelques faits, même si je sais que c'est impossible à entendre pour les gens, effectivement, c'est quand même... Déjà, on peut quand même noter, moi j'aimerais quand même qu'on célèbre quand même les bonnes nouvelles, c'est quand même les stocks stratégiques. C'est-à-dire qu'on a quand même eu...
Qui ont très bien fonctionné pour le coup.
Voilà, donc pour une fois, nos États nous ont protégés. Anticipé.
Non, c'est vrai qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard. Là, pour le coup, bon, les
stratégiques. Ah, bravo les gens qui ont pensé à ces stocks, etc. Et d'ailleurs,
il n'y a pas eu de pénurie. Les prix se sont envolés, mais il n'y a pas eu de pénurie.
Et en fait, pour revenir avec les questions de géopolitique, pourquoi ces stocks existent? C'est qu'en fait, c'est l'héritage de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ces stocks, pourquoi est-ce qu'ils existent dans tous les pays? c'est pour mettre de l'essence dans les tanks et dans les camions pour faire la guerre. C'est-à-dire que c'est quand même l'héritage de quelque chose. On re-rentre dans un monde de guerre, voilà.
Oui.
Et c'est bien, en fait, des fois, d'anticiper vraiment la guerre plutôt que cuicui les petits oiseaux et vive le libre-échange. Je referme la parenthèse. Le pétrole, le prix réel du pétrole par rapport au niveau de vie s'effondre depuis les années 70. Et là, c'est quand même sidérant de voir qu'effectivement, on est déjà redescendu à moins de 80 dollars le baril, pardon. Et effectivement, je fais partie, je suis expert.
Et même qu'on n'est jamais monté à plus de 115 dollars le baril, alors que Détroit d'Ormuz était fermé. C'était l'apocalypse chez les prévisionnistes. Exactement. On était sur du 150 et à 250 dollars le baril.
Le président de l'Agence internationale de l'énergie a dit que c'était le plus grave choc pétrolier de l'histoire depuis 73, ce qui était un peu surprenant quand même.
Exactement.
Et
on anticipait à 200 dollars. Moi, je suis un expert de rien, c'est pour ça que je viens dans cette émission. Mais on a quand même.
On a Clémentine pour ça.
Et aussi, j'ai une voiture thermique parce que j'ai pas les moyens d'acheter une voiture électrique alors qu'elles sont trop belles, les nouvelles voitures électriques. Je rêve de m'acheter la R5 électrique. Donc, si Renault m'écoute, voilà.
Le message est passé.
Qu'ils n'hésitent pas à me faire une petite réduc. Mais je pense aussi, avec ce qui se passe au Venezuela, avec l'augmentation de la production. Mince, ça m'échappe. Le pays là, qui a quitté l'OPEP, justement pour accroître sa production récemment, là, pendant la crise. Enfin bon, bref. Les tendances à long terme, effectivement, il y a d'un côté un retour de l'offre. Le Venezuela, c'est la plus grande réserve mondiale de pétrole du monde. Hein.
Oui.
Et donc là,
mais de mauvais pétrole, de mauvaise qualité.
Non, mais d'accord, mais je veux dire, en tendance, si ça dure, mais non, effectivement,
oui,
ça, et la baisse de la demande, voilà, on peut anticiper.
Le peak oil n'est pas atteint. Ça,
non, mais on peut anticiper une vraie forte baisse structurelle du prix du pétrole, ce qui est d'ailleurs pas du tout une bonne nouvelle pour la planète, etc.
Bah non, en tout cas, pour le pouvoir d'achat. Que le signal prix est quand même ce qu'il y a de plus efficace pour changer les comportements, et qu'on a vu l'effondrement de la consommation des carburants pendant la crise au Moyen-Orient et l'explosion des ventes de véhicules, de voitures électriques.
Mais il y a même.
Renaud, écoutez Gilles Ravoux.
Non, mais là, ça, moi j'adore ce truc-là depuis toujours le pétrole, parce que ça va jamais. Donc moi j'adore quand ça va pas. Parce que si le prix du pétrole est trop élevé, c'est la crise du pouvoir d'achat. Oui. Et s'il est trop bas, c'est mauvais pour la planète. Donc de toute façon, ça va jamais.
Donc quoi qu'il se passe.
Voilà.
Voilà. Une vision optimiste de l'avenir. On va parler logement dorénavant. Là aussi, on va parler choc, quatre chocs. C'est ce que promet Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement, qui présente aujourd'hui. Un projet de loi sur lequel il a beaucoup travaillé depuis 9 mois et qui devrait être examiné à l'Assemblée nationale à la rentrée le plus tôt possible, nous dit-on du côté du gouvernement. Qu'est-ce qui contient ce projet de loi, Clémentine Gallès?
Peut-être avant de parler du projet, je trouve que c'est quand même intéressant de rappeler la conjoncture du secteur du logement et de la construction qui reste vraiment freinée depuis le Covid et qui est plus connecté à des taux d'intérêt plus élevés et qui pèsent globalement sur l'activité. Et c'est assez atypique, même avec la reprise qu'on a eue en 2022-2023. Voilà, on a gardé cette pression plutôt baissière en termes d'activité sur le secteur globalement.
Ouais.
Pour moi, c'est à connecter vraiment avec la dynamique des taux d'intérêt qui globalement ont été plus élevés du fait de plus d'inflation et puis du fait de la pression spécifique sur les finances publiques françaises. Alors aujourd'hui, il me semble que les taux d'intérêt sont quand même en train de se stabiliser et pourraient permettre un certain redémarrage du secteur, mais ce qui pourrait aussi être boosté par des changements de politique.
Qui est toujours difficile dans le neuf. On a Miss Immobilier BFM Business qui nous rejoint sur le plateau. Salut Marie.
Ah non.
Viens, aussi évidemment. Mais dès qu'on parle immobilier, on ne peut pas parler immobilier sans que Marie Cœur de Roi, apparaisse sur le plateau.
Non, mais c'était un effet de circonstance. J'étais en régie, j'ai entendu le sujet.
Ben
j'ai
voilà,
entendu
le nom de notre cher ministre. Ça me fait plaisir d'accueillir Marie Cœur de Roi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il va dans le bon sens?
Il y a des éléments qui vont dans le bon sens pour relancer l'investissement locatif. Par exemple, le fameux dispositif Jeanbrun du nom du ministre. Oui, il va dans le bon sens parce qu'il est amélioré par rapport à sa version initiale, notamment pour l'ancien. Parce que je rappelle, au démarrage, son dispositif, pour faire ce dispositif Jeanbrun dans l'ancien, il fallait qu'il y ait 30% du prix du bien qui soit consacré à des travaux.
Oui.
Et surtout qu'on atteigne la note A ou B, ce qui est techniquement quasi impossible, sauf si c'est du logement neuf. Donc là, on abaisse un petit peu ces curseurs-là. On va descendre à la note D minimale. Donc c'est difficile.
On rejoint le plancher du réel. Voilà. On sort
voilà,
un peu du
exactement. Il y a 20% de travaux. Maintenant, après, il manque énormément de chance. Et puis le concours de circonstances par rapport à la canicule. Moi, je voulais juste rappeler un truc. Il y a un an tout pile, on a des députés, une cinquantaine de députés qui ont déposé une proposition de loi contre les bouilloires thermiques.
Oui.
Et bah depuis, elle est restée lettre morte. Ben voilà. Et donc c'est ça qui manque dans ce texte. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'on a eu un brief hier de ce texte du ministre Jean Brun, et il disait qu'effectivement, ils n'allaient pas pouvoir faire l'impasse et qu'il allait avoir tout un tas d'amendements qui vont être déposés dans le cadre de ce texte-là. Et c'est là que ça va devenir véritablement intéressant. Mais pour le reste, c'est des petites mesurettes. Hein. On va pas se mentir. C'est pas ça qui va régler la crise du logement en France. D'autant qu'en plus, concours de circonstances, ce texte, il fait quoi aussi? Il donne un sursis supplémentaire pour les propriétaires bailleurs pour rénover les passoires thermiques. Donc, oui, on va laisser 50 plus dans les appartements loués.
Ils sont souvent les mêmes, non?
Mais non, parce que parfois, vous faites les travaux pour lutter contre l'état de passoire thermique et vous créez des bouilloires thermiques, figurez-vous, Raphaël. C'est quand même génial, parce qu'effectivement, on ne communique pas assez, puis le gouvernement sous-subventionne aujourd'hui l'isolation, ce qui est l'alpha et l'oméga, pour bien réchauffer, pour bien refroidir si vous voulez mettre la clim, par exemple.
Bah oui, sauf que le gouvernement est à l'os, n'a plus un rond. Mathieu Plane, vous suivez ça de manière très près,
donc c'est la toujours pareil. Hein. oui, non, donc, alors, là, d'un point de vue macro, c'est un vrai sujet. Parce
ou des normes en moins. Un peu sale.
Non, mais en fait, vous avez des chocs d'offres et de demandes qui vont dans le mauvais sens. Mmh. De toute façon, on a vu le choc de demande avec la hausse des taux, les effets sur le pouvoir d'achat. Mmh. En gros, sur l'investissement, vous prenez l'investissement neuf, ça vous en a perdu quasiment un point de PIB. C'est pareil, un point de PIB, hein, sur quelque chose qui représente entre 5 et 6% du PIB. Donc, ouais, c'est massif.
30 milliards, bah oui.
Voilà, vous avez des emplois derrière. Et puis, vous avez les problèmes d'offres qui sont soulignés. C'est-à-dire qu'avec ces transformations, ces passoires thermiques, la sortie des F ou des G, la zéro artificialisation nette des sols aussi, qui est encore un débat qui va revenir parce qu'elle permet aussi, c'est quand même aussi dans les questions de réchauffement climatique et d'adaptation, le problème c'est qu'on peut plus construire, mais si vous artificialisez trop, vous avez
pas
de réchauffement, ça réchauffe la ville.
Bah, c'est pas complètement faux, faut juste construire en hauteur. Hein.
Voilà, il faut construire en hauteur. Voilà,
mais
il faut qu'il y ait une acceptation sociale aussi. Enfin bon, vous voyez, c'est des projets qui se font sur le temps. Et moi, j'ai l'impression qu'on a une loi sur le logement chaque année avec des objectifs qui sont donnés. On va faire 600, 700 000 logements.
Et un choc.
Comme on a des chocs de logement, on a des chocs de logement, on a des chocs de compétitivité, on a des chocs de simplification. En fait, on est habitué un peu à chaque fois. Mais c'est un sujet majeur.
Il y a des mots-clés comme ça qui sont assez casse-misère. Si vous entendez plus c'est flashy, c'est moins il y a de contenu en général.
Important. Alors moi, je pense qu'on n'a pas un sujet logement, on a des sujets logement. On voit bien que les choses sont très différentes selon les zones d'habitation, les agglomérations. Voilà, il y a toute cette réflexion à avoir. Mais clairement, il faut rappeler que c'est quand même le premier poste de dépense des ménages. Et qu'en plus, ça peut être très inégalitaire. Et que c'est d'autant plus inégalitaire maintenant qu'on a ces questions aussi climatiques. C'est-à-dire que les questions de passoire l'hiver ou de bouilloire sont quand même des problèmes importants. Et donc, la question de l'énergie, dont on parlait tout à l'heure, est quand même assez liée.
Bon, j'ai l'impression que pas grand monde autour de la table ne croit en ce projet de loi. Gilles, est-ce qu'on remonte le logement d'ici 2027 avec ce nouveau texte?
Ben non.
Encore une fois, réponse technocratique à une crise bien pragmatique.
Moi, j'avais été... j'espère que Marie ne va pas m'étrangler, ou en tout cas peut-être...
J'attendrai.
Mais toujours avec tendresse.
Peut-être attendre la fin de l'émission. Moi, j'avais été vraiment choqué par l'histoire, effectivement, des passoires thermiques sorties du marché. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve qu'il faut laisser faire le marché. C'est-à-dire que si, rien ne va, si on avait des diagnostics qui tiennent la route, ce qui n'est pas le cas.
Et donc, oui.
Comment est-ce qu'on peut avoir... Alors là, je mets ma casquette de gauchiste. Comment est-ce qu'on peut avoir des diagnostics qui tiennent la route avec un service public du logement, avec des gens assermentés et qui vont partout et qui font un travail l'inspecteur du travail, l'inspecteur des impôts, c'est-à-dire c'est des gens, s'ils font des conneries, ils le payent très cher, alors que là, on a des gens qui se gavent, qui arnaquent des pauvres ménages et qui, en fait, disparaissent avec la caisse. Enfin, c'est de la folie.
Et vous êtes pour un service public d'évaluation.
Oui, de certification. Si on avait ça.
L'isolation des bâtiments.
Et ensuite, effectivement, on a un vrai diagnostic énergétique sur les logements. Je vois aucune raison de sortir du marché. C'est-à-dire que, malheureusement, pour dire les choses, vous êtes aide-soignante, vous avez un salaire extrêmement faible, et ben vous allez vivre dans un logement horrible, mais au moins vous avez un logement. Et on peut espérer qu'avec le marché, le loyer soit plus bas.
Mieux que rien, je vois Marie.
C'est pas entendable. Mieux vaut dormir sous un toit dégueulasse que dormir sous les ponts, c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens qui dorment dans les parcs tellement il vaut mieux pas dormir sous un toit dégueulasse que sous les ponts. Donc à un moment donné, il faut poser la question de savoir si effectivement il faut pas aider. C'est la dépense publique. Mais parallèlement à ça, on a ce que rapporte le logement en France. Et à chaque fois, moi je salue la patronne de Next City qui l'avait très très bien dire. Sortons de nos fichiers Excel. Il y a la dépense et il y a les recettes. Le logement au sens large, ça rapporte plus que ça ne coûte. Deux fois plus
Véronique
que
Bédague.
Ça ne coûte. Ben, bien sûr. Et donc, à un moment donné, il va falloir savoir, fin du mois, fin du monde. Hein. Moi, je suis désolée, mais en tant que locataire et les auditeurs, téléspectateurs de BFM Business le savent,
on commence à le savoir.
Je n'accepte plus cet argument de dire c'est quand même mieux que rien. Pourquoi on n'aide pas les propriétaires bailleurs? Je jette pas la pierre aux propriétaires bailleurs. J'en ai besoin pour vivre. Maintenant, la question, c'est comment je les aide pour pouvoir créer des logements décents, pas ultra vertueux. On a bien conscience que ça sera pas possible tout de suite, mais au moins décents. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je trouve que l'argument de dire laissons faire le marché là-dessus, c'est compliqué quand on a des locataires qui aujourd'hui s'en sortent plus. Vous regardez en face de chez vous, enfin, tous les habitants de Paris, là, en ce moment, enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, il va falloir regarder ce qui se passe
alors,
chez nous.
C'est vrai, excusez-moi, c'est très intéressant ce que vous dites et je suis ravi de vous avoir invité dans mon émission. Mais, non, mais le problème, c'est que ce que tu dis, c'est valable. Moi, là où j'enseigne, d'accord, il y a un diplôme sur la culture. Et c'est pareil. Moi, j'ai des collègues enseignantes qui disent regardez, les festivals, ça rapporte trois fois plus que ça coûte. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de municipalités qui ont annulé les festivals pour l'année prochaine parce qu'elles ne peuvent plus payer. Oui. Et ce que tu dis, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'éducation. Et on ne peut pas.
Non, mais c'est vrai sur tous les sujets qu'on a évoqués ce soir. C'est vrai pour la clim, dans les écoles, dans les hôpitaux.
Ouais, mais sauf que la différence, c'est que le logement, c'est une priorité, encore une fois. Première
priorité.
Mais du logement dépend aussi l'éducation de nos enfants, leur capacité à se loger dans des habitats dignes, avoir leur chambre, avoir un bureau, le vivre ensemble, l'énergie, vous en avez parlé, c'est le logement. Le logement, c'est tout. C'est l'acceptation des autres, les crises sociales, les crises sociétales. Encore une fois, s'il y a bien un poste sur lequel il faut dépenser.
Mais non,
mais c'est pas possible.
Marie-Cœur de Roanne réchauffe l'ambiance sur le plateau. Heureusement qu'il y a de la clim pour calmer tout ça. Je ne sais plus quoi vous poser comme sujet. Tu nous perds, Marie.
Bah oui,
je suis désolée.
Merci de ton enthousiasme.
Après, pour retrouver
est-ce qu'il y a pas un sujet de décentralisation dans ce qu'on dit aussi
pour retrouver le fil conducteur de l'émission, il y a un problème d'intervention de la politique publique dans une situation où les finances publiques sont contraintes. Et donc, à ce moment-là, on a peut-être plutôt intérêt à mettre en place des incitations plutôt que des normes qui interdisent l'accès à tel logement ou des besoins de subventions et d'investissement que l'État ne peut auquel l'État ne peut
pas. Parce que c'est pas ça la crise du logement aussi, c'est un excès de fiscalité, un excès de normes.
Oui, mais sur la décentralisation,
le logement est considéré comme une rente depuis.
La décentralisation, c'est hyper intéressant. Moi, justement, on nous expliquait qu'avant le moins de permis de construire, avant la décentralisation, ça remontait au préfet, c'était dingue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Bretagne, par exemple, qui est une région où je vais de temps en temps?
Oui.
Il y a des maires qui ne construisent plus parce que sinon, non, mais ça c'est hyper intéressant.
Maire bâtisseur, maire battu, c'est connu, Gilles Raveau.
Eh ben oui.
Les gens ne veulent plus de nouveaux bâtiments.
Et donc, non, mais ça, c'est quand même très compliqué là aussi, parce que, en termes de philosophie politique, il y a un argument très fort sur la décentralisation, c'est plus de démocratie. Mais qu'est-ce que se passe plus de démocratie? Et je vais encore retaper sur nos cerfs aînés, comme dit Emmanuel Macron, c'est que nous avons plein d'endroits où il y a des retraités qui vivent très bien, qui ont leur résidence principale, qui éventuellement ont leur résidence secondaire où ils viennent deux semaines par an, et qui refusent qu'on construise des logements pour les gens qui littéralement les servent et qui travaillent. Et on a plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce que vous faites?
NIMBY.
Non, mais qu'est-ce que vous faites face à ça?
Not in my backyard.
Qu'est-ce que vous faites face à ça? Voilà.
Donc c'est répondre aux besoins de la population avec un peu de courage politique.
Oui, ou alors on fait comme pour le logement social, on demande au préfet de se substituer au maire. Moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait, un politique, qui me disait qu'en fait, il était à la commission SRU, et qui disait qu'il y avait pas mal de maires qui appelaient en disant « Allez, viens faire une opération coup de poing pour signer le permis de construire à ma place. Comme ça, moi, je sais que je vais faire quelque chose de bien pour l'intérêt général, mais politiquement, c'est pas sensible pour mon électorat. » C'est quand même intéressant de dire ça. Oui, il faut de la décentralisation, mais à un moment donné, c'est compliqué pour les maires. Puis il y a ceux qui ne construisent pas. Et on comprend pourquoi. Et puis, il y en a d'autres qui se vantent carrément de ne pas construire. Vous avez des mairies, je ne citerai pas des mairies, qui carrément se font élire sur la promesse de ne pas construire. On a vu dans des magazines municipaux des maires qui disaient c'est tant de permis de construire pas signés, tant de logements qui sortiront pas de terre. Bravo, dans des zones ultra tendues du 93. Hein. Bravo.
Je vais poser une question peut-être idiote, mais vu que les naissances baissent, est-ce qu'on ne va pas être en excès si on se met à construire de partout?
Et il y a des endroits en France où il y a déjà un excès de logements.
C'est ça.
Bah, je veux dire, aller dans la Creuse, je ne sais rien, moi, mais.
La démographie.
La démographie, d'abord, il y a cette question. D'abord, on a un pays qui n'est pas complètement homogène, hein, vous remarquerez, avec des territoires qui sont plutôt déserts et des territoires qui sont très tendus.
Oui.
Donc, c'est comment vous faites pour augmenter le foncier dans les territoires tendus? Ce n'est pas une problématique dans Creuse. Hein. Voilà, il y a ça. Il y a effectivement la démographie dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on a une dénatalité qui est très forte, avec un vieillissement important. Et puis, on a le prix des actifs. On n'en parle pas, mais il y a une question patrimoniale et des transmissions. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle de la grande transmission.
Est-ce qu'on va pas avoir des zones où des prix vont s'effondrer donc, avec voilà, la grande transmission et les familles qui vont vouloir liquider l'héritage qui ne voudront pas garder.
Il va se passer certainement encore beaucoup de choses avec à la fois ces valeurs d'actifs, à la fois avec ce qui se passe aussi sur les marchés et notamment les taux d'intérêt. Mais aussi, effectivement, comment on va se réallouer tout ce capital-là ? Et est-ce que ce capital va rester ou pas dans les grandes villes ? Ou est-ce qu'on va avoir une diversification ? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir encore des changements importants, structurels, quelles que soient les décisions prises par les pouvoirs publics.
Mais il y a la dénatalité, mais il y a aussi de plus en plus de familles monoparentales.
Oui, c'est vrai qu'il y a des ménages.
En termes de nombre de logements dont il va falloir avoir besoin, est-ce qu'on va attendre, effectivement, que tous les autres meurent pour la grande transmission ?
Non, mais c'est à l'horizon de 10 ans, 15 ans.
Et non, il y avait une proposition de loi qui était aussi très intéressante d'une députée UDI, je crois, qui voulait filer un prêt à taux zéro pour les familles à partir du moment où ils avaient un nouvel enfant, politique familiale. Se dire, c'est parce que c'est peut-être ça le sujet, est-ce qu'on ne peut pas relancer la natalité par le logement et pas plutôt
aujourd'hui
réduire le nombre de logements parce qu'on est en dénatalité quoi.
C'est... Évidemment, il manque une pièce par famille, peut-être que c'est l'une raison de cette dénatalité. Marie, on aurait bien une deuxième d'ailleurs. Allez,
c'est
merci.
Pour ça qu'on en fait
trois.
Voilà.
Merci à tous les quatre pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Marie Cœur de Roy, Gilles Raveau, Mathieu Plane et Clémentine Gallès. Tout de suite, c'est R&D Défense animé par Jean-Baptiste Huet. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.